C'est que pour les fins de l'école, hein, tout simplement. C'est juste pour... Voilà. Donc, comment définiriez-vous le handicap ?
Le handicap ? Je dirais toute situation qui peut empêcher à la vie quotidienne d'une personne. Voilà, les situations de handicap peuvent être tellement variées et puis élargies. Mais effectivement, c'est quelque chose, à mon sens, du handicap qu'on ne pourrait peut-être pas faire seul ou d'amener en tout cas la personne à cette autonomie et à cette reconnaissance pour faire en sorte que le handicap ne soit pas non plus une entrave à la vie, à l'insertion, au projet de vie d'une personne.
D'accord. Autre question. Dans votre carrière, avez-vous fréquenté, fait régulièrement des ateliers où l'on parle des personnes en situation de handicap pour sensibiliser au statut du handicap ?
Je l'ai fait effectivement beaucoup plus sur ma prise de poste en tant que chef de service et notamment effectivement auprès des familles et des jeunes dont la reconnaissance, ou en tout cas la notification a été faite soit par un établissement ou un organisme, établissement scolaire. Et c'est vrai que les premiers sur les rendez-vous d'admission ou même dès le premier contact téléphonique, les gens ont besoin qu'on étaye un peu plus cette notification, qu'on explique. Et c'est effectivement dans ce processus-là qu'on remarque bien que les familles et les jeunes ne sont pas forcément, en tout cas, associés à toutes ces démarches, que généralement, ça se fait sous le couperet de d'une situation très complexe, donc où en fait la personne n'a plus le choix de décider sous couperet d'une exclusion, sous couperet, on va dire, d'une quelconque menace indirectement. Donc les familles en fait font les démarches, en tout cas sont soit portées ou font de manière un petit peu bête et naïve, hein, sur il faut faire ça pour garder une place. Et on voit bien qu'il y a quand même, entre la constitution du dossier et effectivement la situation, il manque en tout cas vraiment une explication des établissements, du handicap. Hein, la plupart des jeunes sont choqués de savoir que, par exemple, sur les TEP, ils sont en situation de handicap. Généralement, ça leur a jamais été forcément formulé, ou en tout cas pas associé. Donc voilà, nous en tout cas dans le service, on développe, alors, au travers du partenariat, travailler nos plaquettes pour pouvoir en amont expliquer aux familles voilà, ce qui est possible et dédramatiser un petit peu les choses pour qu'il y ait cette acceptation de l'aide et de la prise en compte.
D'accord. Quand les jeunes ils viennent de l'ITEP, ils viennent par des structures des services sociaux, ou est-ce que ça peut être par la MDPH ou par un centre hospitalier par exemple qui vous l'envoie ?
Alors généralement dans la majorité des cas, c'est des jeunes qui ont été identifiés au niveau de l'établissement scolaire. Et l'établissement scolaire aide et en tout cas informe et signale de la situation de handicap et font cette demande auprès de la MDPH.
D'accord.
Okay. C'est très rare que ça soit d'un centre hospitalier directement. Il peut y avoir, mais comme les jeunes sont en âge d'obligation scolaire, c'est la majorité l'école qui oriente. Après, on peut être sur des cas entre établissements médico-sociaux, par contre.
D'accord.
Pour des projets, pour
pour le faire évoluer tout simplement en fonction de son âge et tout ça. Ok, d'accord. Ok. Est-ce que la reconnaissance du handicap, elle est mieux acceptée pour vous depuis cette, on va dire depuis cette année, enfin cette nouvelle génération qu'on est là en ce moment, est-ce que cette reconnaissance, elle est mieux acceptée quand on fait un travail par exemple avec eux que quand on leur dit du jour au lendemain qu'ils sont en situation de handicap, à rapport à l'époque, à avant, si on regarde dans les années 90 ou autre, on voit, moi je trouve qu'il y a peut-être une différence d'acceptation. Est-ce que vous en pensez
Tout à fait. Alors je trouve qu'au niveau sociétal,
oui.
C'est effectivement inscrit dans les mœurs. On le voit bien sur les établissements scolaires, tous les nouveaux corps de métier qui sont venus, les APS, bon maintenant AESH de qualification. Voilà, je pense qu'il y a vraiment la prise de conscience qu'il y a besoin de professionnels dans les établissements scolaires pour soutenir tous ces enfants, ces jeunes en situation de handicap, à ne plus cloisonner dans des espaces dans les établissements scolaires, à l'écart, comme les CLIS, les SECPA, où déjà ça mettait aussi une stigmatisation de fait par le lieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'ABS dans la classe est devenu pour les jeunes quelque chose de quotidien, d'assimilé. Il n'y a pas de questionnement plus que ça. C'est effectivement maintenant dans les mœurs. Par contre, les jeunes, effectivement, qui sont bénéficiaires, vont plus accepter l'aide au niveau de l'éducation nationale, donc de l'AVS ou des PPS, des adaptations. Voilà. Après, quand même, sur leur pathologie ou leur situation de handicap réelle, quand on le parle ailleurs sur d'autres structures, c'est plus douloureux. C'est plus douloureux parce que on sort de l'établissement scolaire, on va quand même dans un établissement de soins. Donc, nous, on remet, on va dire, le handicap. Et je pense que ça, c'est encore quelque chose de compliqué pour les jeunes. De l'éducateur, du service soins qui vient auprès d'eux. Là, voilà, c'est un peu plus compliqué. Les jeunes ont besoin. Alors après, c'est pareil, entre les primaires, les jeunes de 6, encore 6 à 11, ça passe. Hein.
Voilà.
Il n'y a pas de souci. Les collégiens, voilà, après avec l'adolescence, il y a aussi d'autres enjeux qui se jouent et c'est plus compliqué, mais ce travail peut se faire par justement beaucoup de verbalisation, de dédramatiser aussi le handicap comme ils peuvent aussi l'entendre, tel que l'autisme ou d'autres choses du polyhandicap. Donc c'est vraiment de leur dire que ce statut peut être aussi évolutif, de sortir du handicap tel que effectivement on le connaissait, du polyhandicap, du handicap moteur, voilà, d'être sur un panel beaucoup plus large. Donc après, avec une verbalisation, voilà, il y a quelque chose qui se décante, une acceptation, mais il faut un accompagnement.
Voilà. Et dans l'accompagnement, est-ce que les parents, enfin l'environnement social, hein, bon, on va dire les aidants, parce que c'est quand même des aidants avant tout, est-ce que aussi prennent compte du handicap de leur enfant ou de la personne qui s'occupe et sont investis, ou est-ce qu'ils ont des freins particuliers, peut-être par manque de connaissances aussi, ça peut être ça parce qu'on ne les a pas informés, ou des préjugés qu'on a donnés, donc ça peut être ça. Donc les aidants qui accompagnent ces enfants-là, puisque c'est des parents, mais enfin c'est pas que des parents aussi des fois, donc c'est un peu...
Alors c'est au niveau, alors spécifiquement sur le trouble du comportement, c'est ce que je disais, c'est encore une branche du handicap qui n'est pas forcément reconnue et on va dire compris de tous, que ça soit au niveau de la société, C'est-à-dire qu'on est beaucoup aussi sur des familles qui sont honteuses parce que le trouble du comportement, ça renvoie effectivement beaucoup d'échecs, d'exclusion, d'appels téléphoniques toujours par rapport à des comportements qui sont transgressifs, qui peuvent être violents, des manifestations qui sont difficilement compris déjà par le corps enseignant pédagogique. C'est vrai qu'ils ont beaucoup plus de sensibilité sur d'autres types de handicap. Le trouble du comportement, c'est quelque chose qui est encore difficile, mais comme on le dit, c'est quelque chose qui peut être évolutif, c'est quelque chose aussi qui fait du bruit dans les manifestations. La plupart des choses, l'école, on amène le fait que le jeune ne fait pas d'efforts, n'est pas à sa place, alors que c'est aussi sa situation qui fait que il est empêché, il est entravé. La plupart, au bout d'un moment, c'est vrai que l'équipe pédagogique, des familles sont usées parce que ne savent pas comment appréhender, ne savent pas comment faire en sorte que tout ce qui peut être aussi de la violence puisse s'apaiser. Donc c'est vrai que c'est des familles souvent pointées du doigt, qui peuvent être prises comme défaillantes. Donc beaucoup de familles se sentent jugées par les autres familles aussi, d'autres professionnels. Et je pense que beaucoup sont aussi honteux. Donc il y a des choses qui se... Le travail auprès des familles est très important pour pouvoir effectivement mettre des mots et de la compréhension sur des symptômes qui peuvent se faire. Donc c'est tout un travail d'accompagnement, déjà dans la compréhension de ce qui est le TDAH,
oui.
Et ses différentes facettes. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on arrive à remettre des mots, à faire en sorte de comprendre que le jeune n'est pas non plus dans ce... à faire exprès d'enquiquiner le monde et que c'est ses limites, il y a du lien qui se remet entre la famille et le jeune. Mais c'est vrai que c'est le trouble du comportement spécifiquement. Je pense que au niveau des familles, il y a encore des choses à développer, sachant qu'on n'est pas du tout sur des collectifs d'associations de familles, de gens qui peuvent retrouver aussi ressources auprès d'autres parents. Donc c'est vraiment des familles qui sont isolées, donc les jeunes aussi, et puis incompris par la société aussi.
De toute façon, les troubles comportementaux, je crois que c'est une image qui reste quand même suite, quand je lis la lettre de Diderot ou quand on regarde les textes de loi de 1957 ou même un peu avant, on parle de troubles mentaux, d'infirmes, de mental. Enfin, donc on est sur quelque chose qui était assez négatif. On est en train d'évoluer sur quelque chose de positif dans notre lexique. Mais moi, il y a encore des choses qui me perturbent. Quand, dans l'acceptation, par exemple, quand on dit capacité, parce qu'on dit handicap, t'es cap, mais une personne, les variations de handicap, de capacité sont différentes entre chacun, comme un trouble 10, il y a une différence entre chacun. Dans les troubles mentaux, il y a même les moteurs, enfin, il y a toujours des... Donc après, la comparaison de l'autre qui a fait une prouesse qu'on met sur LinkedIn ou sur un autre quelque chose, ça peut être un lève-moteur, mais ça peut aussi le renfermer parce qu'il dit je suis pas capable de le faire aussi. Donc il y a ça aussi des fois. Ça peut
offrir. Et comme vous dites, je pense que la société a évolué, c'est que le handicap, c'est quelque chose de visible.
C'est ça.
Beaucoup. C'était visible, ou alors effectivement, c'était des structures qui en prenaient en charge, parce que les ITEX, c'était des instituts de rééducation.
Tout à fait.
Où ils étaient cloisonnés dans un établissement, on n'était pas sur l'ouverture. Donc c'est vrai que c'était un petit peu tu et caché dans ce type-là. Et c'est vrai que les handicaps non visibles, entre guillemets, on a l'impression que tant que ça ne se voit pas, en fait, Est-ce que réellement il y a ce handicap ou c'est voilà, parce
C'est ça.
qu'aujourd'hui c'est pour faire bien. C'est beaucoup dans ces réflexions-là où effectivement le handicap c'est pas forcément quelque chose qui se voit. Et c'est compliqué, je pense, ça pour certaines personnes de l'entendre en tout cas.
Ouais. Et alors, est-ce que la reconnaissance est le premier pas à l'acceptation de la compensation pour les aides techniques, transport, matériel, logiciel? Cette reconnaissance-là, je pense, est-ce que pour vous, elle est dans cette, ça va permettre l'acceptation de la compensation, ou est-ce qu'il faut complètement accepter son handicap pour avoir une reconnaissance? Peu importe si on met une compensation ou pas. Elle est compliquée cette question.
C'est vrai que les compensations, alors déjà, c'est très compliqué, quoi. Compliqué. Généralement, on fait des demandes supplémentaires pour les compensations du handicap. Alors, sur les troubles du comportement, on est la majorité sur les compensations, c'est l'aménagement, donc des PPS, projets personnalisés de scolarisation,
D'accord.
aménagés sur les emplois du temps pour alléger les cours. Ça va être voilà, sur ces types-là, ou soit des polycopiés, des manières, des outils que les équipes pédagogiques vont avoir ou pour les jeunes. C'est-à-dire qu'on enlève l'écrit et l'ABS va compenser au niveau de la fatigabilité. On est beaucoup plus sur des ABS, des demandes d'ABS qui se font généralement s'octroient assez facilement, je dirais, dans un contexte. Après, il y a autre chose, c'est-à-dire c'est tout ce qui est du recrutement et puis du statut des ABS qu'il
D'accord,
faut
ouais.
encore améliorer
Tout
et
à fait.
étendre pour ces jeunes-là. Mais ça, c'est quelque chose qui est facilement accordé. Après, quand on est sur d'autres compensations de type ergonomie, où il faut un ordinateur ou quelque chose comme ça, là déjà, c'est pour les familles, c'est aussi que c'est quand même un parcours, hein, parce que
Oui.
avant qu'il y ait un remboursement ou une demande, on demande à faire des bilans, un bilan qui est quand même onéreux.
Oui.
Il y a des familles qui ne peuvent pas assumer tout ça. Par la suite, donc, tout ça est envoyé à la MDPH et la MDPH juge ou non le remboursement ou l'octroi de tel type de matériel. Donc voilà, je trouve que c'est fait un petit peu décousu dans la reconnaissance et la demande. C'est-à-dire que on ne va pas à un seul moment essayer d'évaluer voilà réellement tous les besoins et il y a quand même toujours après le couperet de la MDPH qui va accorder ou non
Oui.
tel type d'outil
D'accord.
et ça c'est plus compliqué.
Ok. Alors, maintenant, c'est la catégorie des compensations. Alors, comment vous vous sentez avec comment vous sentez-vous avec la connaissance des compensations? Parce que quand j'ai regardé, on a quand même au moins quatre catégories. Sur ces quatre catégories, elles sont décomposées en sous-domaines, plus encore sous-domaines. Qui fait que en fait il y a beaucoup de compensations possibles, mais moi j'avais l'impression de ne pas connaître toutes ces informations-là. Et c'est vrai que quand on est dans le terrain où on a des personnes en situation de handicap, c'est se poser la question, est-ce qu'on doit connaître toutes ces informations de compensation pour pouvoir aider?
On n'est pas du tout forcément informé directement, c'est-à-dire voilà, soit il faut aller chercher l'information, ou soit c'est en prenant des situations de famille où voilà, il y a eu ce maillage-là, où on se dit bon bah ça c'est possible, mais non, on n'est pas au courant effectivement de tout ce qui peut être possible pour en demande, hein, et que ça soit pour les professionnels professionnels du médico-social que l'éducation nationale, qui sont aussi dans les premiers domaines au niveau de la scolarité, de savoir qu'est-ce qui pourrait être demandé. Je pense qu'effectivement, on est encore trop cloisonné, c'est-à-dire que je suis dans l'expectative de me dire peut-être qu'ils ont effectivement des catégories, troubles du comportement, on peut demander ça. On avait des jeunes qui avaient des problèmes, par exemple, effectivement, qui n'étaient pas encore lecteurs ou qui avaient des problèmes de petits 10 en plus. Mais tant que ce n'est pas à un niveau très élevé, bah, par exemple, pour des jeunes, on demandait des glisses, ces troubles du langage.
Oui, tout à fait.
Ils étaient blackbookés parce que pas assez par rapport, je pense, à d'autres jeunes ou d'autres pathologies telles que la déficience, des choses comme ça.
D'accord.
Donc, voilà, c'est pas assez ouvert. Je pense que c'est encore trop dans les cases et que le maillage, voilà, des fois empêche peut-être certaines compensations à avoir. C'est vrai quand sur les outils aussi que vous avez pu nous amener, et en disant, mais c'est vrai qu'on n'y a jamais pensé, les liseuses, les synthèses vocales, toutes ces choses-là. Mais parce que effectivement, je pense qu'on est tellement aussi cantonné et puis à nous dire, oui, tout ce qui est de cet ordre de matériel, c'est pour le handicap moteur, les personnes qui n'ont pas de communication, donc qui sont sur effectivement des tablettes, des pictogrammes, où on va vraiment essayer de développer. Et bah, bon an, mal an, un jeune bah, tel que Dolovan, pourquoi ne pourrait pas avoir ce matériel par rapport à une autre pathologie?
Tout à fait.
Et voilà, je me dirais bah, allez, à 60% que si on faisait cette demande, elle serait blackboutée parce que le handicap n'est pas, il n'est pas dans la catégorie des 10, il n'est pas en IM Pro, il n'est pas, voilà, des choses qui complexifient, ou alors qui sont assez énergivores pour les familles et aussi pour les professionnels. C'est dans les demandes, c'est justifier, c'est faire des écrits, faire des tomes pour pouvoir justement justifier de cet outil.
D'accord. Bah, déjà, on venait donc à la question de la catégorisation. Est-ce que on devrait, alors moi j'avais posé la question, la compensation numérique doit-elle avoir une catégorie supplémentaire à rapport à l'aide technique, matérielle et humaine, parce que c'est vraiment une particularité différente. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ouais, tout à fait. Alors effectivement, parce que déjà, c'est vrai que c'est des outils, bah, on ne peut pas faire fi, hein, c'est la génération. Il faut évoluer de toute façon. Et puis ça demande quand même aussi d'autres types de professionnels pour pouvoir bah, utiliser ces outils-là qui sont des fois aussi assez complexes. Effectivement, dès qu'on touche aussi au numérique, c'est-à-dire de pouvoir utiliser de manière optimum l'outil. Pour aussi que la personne qui la reçoit voilà, puisse avoir toutes les fonctionnalités vraiment voilà, que par à tâtonner avec le jeune sur telle utilisation. À mon sens, je pense que ça relève aussi quand même d'autres compétences pour, je pense, la prise en main de l'outil, de choses comme ça, ou peut-être effectivement d'autres catégories comme des ergothérapeutes ou autres, autres professionnels pour pouvoir diffuser et puis amener ces outils-là, quoi.
D'accord.
Sachant que les écoles sont dans le tableau numérique, les tablettes, donc on est sur ces outils numériques. Donc,
Et puis on réduit la différence, puisque en fin de compte, on est tellement du numérique. Et puis si on prend un jeune qui n'est pas en situation de handicap, il va faire des synthèses vocales avec un WhatsApp, par exemple. Un jeune qui est en situation de handicap, on ne verra plus cette différence parce qu'il pourra utiliser la même méthodologie sur tout ce qu'il fait. et il n'y aura pas de différence. Et je pense que c'est pour ça que la technologie et le numérique sont vraiment une catégorie qui devrait être supplémentaire, je pense.
Complètement.
D'accord. Donc, vous avez répondu à la catégorisation des types de compensation. La compensation doit-elle être obligatoire ?
Non, à mon sens, non, et je dirais même qu'elle doit être révisée. Je parle toujours hein, pour les jeunes qu'on accompagne, troubles du comportement. Dans les compensations, comme je vous dis, c'est beaucoup sur les aménagements, soit les allègements sur la charge de travail, des devoirs. Il peut y avoir aussi les scripteurs, donc demander des ABS pour être secrétaire, hein, comme on dit du jeune. Au bout d'un moment, je trouve que ça enferme, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui ne font plus non plus l'effort de développer vraiment pour pouvoir être autonome à la finalité. Certaines compensations, je trouve, leur un peu aussi. Les jeunes que nous accompagnons, je pense aussi des fois à un jeune qu'on avait qui avait, c'était les tiers notes. Donc, en fin de compte, voilà, c'est le tiers notes amène à des notes excellentes, mais leur réellement sur le niveau du jeune. C'est-à-dire que des fois, c'est pas aider forcément la personne. Et quand je dis leurrer, c'est que par la suite, travailler l'orientation, travailler c'est le projet. Après, on arrive à une autre réalité et ces compensations ne se suivent pas forcément. Donc, à un moment donné, il faut que le jeune aussi, on puisse faire en sorte que, quand il est en capacité, que ça n'enferme pas non plus dans une complaisance des choses et limite l'autonomie de la personne.
Alors, est-ce que par exemple, si on rendait le jeune créatif par sa compensation en lui apprenant à être créatif pour que lui s'imprègne cette compensation à sa convenance et puis en fonction de son âge et de son évolution et son évolution aussi professionnelle, ce serait plus intéressant que cette compensation obligatoire comme ça.
Ouais, complètement.
D'accord.
Sur les temps de SS où se parlent effectivement ces aménagements, ces compensations, ces adaptations, le jeune est peu acteur de tout ça. Il est souvent effectivement à l'écoute, c'est vrai que c'est aussi très impressionnant d'être au milieu de plein de professionnels et de parler de soi, de ses difficultés. Donc je trouve que l'attention et effectivement hein, la parole du jeune, son ressenti, et à travailler réellement. Nous, c'est ce que nous faisons justement avec les jeunes. C'est pour ça que les éducatrices portent la parole beaucoup du jeune lors de ces temps-là. Cet échange est fait un petit peu avant pour parce qu'il y a aussi tout ce problème de confiance en soi. Donc ces choses-là où on ne prend pas forcément en compte réellement le jeune. Des fois même on est pris par le temps, il faut faire vite les ESS. Le jeune, c'est pas grave, il n'est pas là, il n'est pas là. Non, pour nous c'est important, on ne peut pas faire sans parce que c'est lui le premier et c'est lui qui peut effectivement dire, évoluer, évaluer. Nous, il y a beaucoup de jeunes aussi, hein, on prend le parti du fait que quand il n'est pas prêt, il n'est toujours pas prêt. C'est de continuer le travail, mais ce n'est pas d'imposer les choses. Certains jeunes ont besoin des fois aussi de faire leur expérience, de se casser le nez pour pouvoir travailler et puis se dire « Ah bah oui, là c'est pas mal par des petits pas de voir ça. » Donc c'est l'acteur, le jeune, je pense que
c'est ça.
C'est encore à travailler dans l'association de son projet.
Je pense qu'il doit être...
C'est vrai qu'on est sur beaucoup de grands termes, projet de vie, projet acteur, être acteur, la loi 2002, hein,
oui.
Tout ça. C'est
C'est ça que j'ai, sur ça que j'allais venir, parce qu'on dit beaucoup d'être, moi je parle beaucoup d'être acteur de son handicap. Bon, ah, bien sûr, assez limitant, et ses déficiences, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais voilà, on a des connotations de mots qui sont assez lourdes, comme si aussi à entendre. Et c'est vrai, d'être acteur, le jeune ou la personne qui est en situation du cadre, donc c'est important qu'elle soit acteur à sa mesure du possible, quoi. Pour moi, je pense que c'est ça pour vous. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que pour vous, donc on rentre dans l'inclusion, donc la compensation numérique peut-elle répondre à une large public de personnes en situation de handicap?
Oui, je pense parce que c'est l'outil, aujourd'hui qui est au premier plan, et on le voit bien même avec la crise sanitaire, hein, le distanciel, tout ce qui s'est développé, les différentes applications qui aussi se développent, se créent pour pouvoir faciliter que ça soit la communication, les échanges. Je trouve qu'effectivement, et puis les jeunes, ils sont nés avec, c'est leur outil. Et je trouve qu'effectivement, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent, et voilà, sur lesquels voilà, ils peuvent aussi être beaucoup plus performants. Effectivement, à l'ancien temps,
oui.
Les stylos, tout ça. Je pense que ça a été plus compliqué pour les personnes qui étaient un petit peu réfractaires de ces outils-là, où on n'a pas forcément grandi avec, parce qu'on n'a pas forcément la maîtrise aussi de ça, par rapport à des jeunes qui, effectivement, ont une maîtrise des fois plus grande qu'un adulte sur un téléphone, sur quelque chose. Intuitif, ce qui est voilà, c'est travailler avec l'ère actuelle.
Et est-ce que vous voyez une différence quand ils sont dans leur connexion, enfin avec le numérique, quand ils sont dans leur lien personnel social, donc ça veut dire quand ils sont avec leurs amis ou quand ils discutent avec leur famille, et est-ce que vous trouvez une différence que quand ils font de la compensation numérique au niveau de leur travail, où là moi c'est l'impression que ça me donne, il y a une méconnaissance totale sur cette partie-là. Et en revanche, dans l'aspect social, les WhatsApp, ces choses-là, ça s'est imprégné alors qu'elles sont complémentaires et qu'on peut les retranscrire sur le professionnel.
Oui, tout à fait.
Ouais. D'accord.
Oui. C'est vrai que ce qui est du paramétrage, des choses pour pouvoir, voilà, je pense que ça, il y a une méconnaissance complète parce que c'est pas forcément mis en lumière, hein, au bout du jour. Et que c'est vrai que par exemple sur les paramètres, je crois que sur certains c'est aussi identifié sur pour déficience visuelle ou voilà des
tout
des
à
choses,
fait
bah, voilà donc qui peut-être aussi se disent bah non c'est pas moi donc je n'ai pas à l'utiliser.
Oui, on revient sur la catégorisation.
Certaines choses qui peuvent être aussi tout à fait prises, hein. Moi je vois aussi sur les flashs des SMS où c'est juste la lumière que le vibreur ou ces choses-là. Voilà, je pense que c'est s'autoriser à vraiment utiliser tous les outils sans se dire, ben non, c'est pas pour moi ou moi, j'en ai pas besoin.
Et puis le numérique aussi, par les paramétrages, on retrouve qu'il y a de la catégorisation puisque comme vous disiez, il déficience en fonction des déficiences et tout. Donc, ça renvoie au jeune ou à la personne en situation de cadre une catégorie alors que en fait, je pense qu'au niveau de la compensation, on ne doit plus rentrer dans des catégories, mais sur des besoins de compensation en disant j'ai une difficulté de langage, j'ai une difficulté à la lecture, à l'écoute, mais en aucun cas malvoyant, mal sourd, enfin, vous voyez, ce type de choses comme ça. Ok. Doit-on former les professeurs, les éducateurs et les professionnels à la connaissance des compensations, par exemple pour les personnes troubles cognitifs et troubles psychologiques, pensez-vous qu'on doit les former, en plus de leur fonction?
Oui, parce que dans les formations d'éduc, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, comme j'ai eu la chance de faire le café en Huisse, donc d'en venir à l'école où il y a du travail social, c'est pas inscrit dans le cursus.
D'accord.
Voilà, du handicap avec effectivement tout ce qui peut y avoir. On survole, on n'est pas dans cette connaissance optimum de tout ce qui peut se faire, de tout ce qui peut y avoir, sachant que, en plus de ça, dans la compensation, on peut mailler différents compensations, voilà, plusieurs choses. Donc, oui, non, il faut des formations permanentes, même à mon sens, sur tout ce qui est du lexique, des acronymes qui changent, qui ne cessent de changer aussi, parce que c'est pouvoir suivre, que ça soit aussi dans le changement des formulaires, de comment on doit les remplir, de comment, où on demande la compensation. Ça, c'est quelque chose qui est à faire, je pense, chaque année devrait y avoir quelque chose aux établissements du médico-social, disant, voilà, attention, ce qui est possible, et l'information ne vient pas, jusqu'à nous, et puis le temps manque aussi pour pouvoir aller faire toutes ces recherches, de découvrir, donc oui, c'est très important.
Et par exemple, lors d'une lecture, j'ai vu que les professeurs trouver que le fait de mettre des adaptations par exemple, à l'inclusion, puisqu'on leur demande que leur document soit plus inclusif, ce qui enchaîne un travail quand même assez important, mais en plus avoir cette connaissance à ce moment-là, pensez-vous que c'est un frein où les professeurs sont un peu dépassés? Par exemple, le professeur que j'ai vu de d'art, où il n'en pouvait plus, il avait du mal. C'était trop pour lui, on sentait qu'il y avait un essoufflement où il disait ben, vivement que je finis ma mission, bien qu'il aimait les jeunes, mais ça n'empêchait pas qu'on sentait qu'il était à bout de souffle, quoi, parce qu'il y avait prendre en compte les compensations, les contraintes, les adapter, et donc avoir cette connaissance, de cette connaissance se former, et on a l'impression que ça met un frein parce que ça fait une surcharge de travail, quoi. On est à la limite du burn-out, quoi.
Mais bon, c'est entre les lois qui sont passées et puis le déploiement, et des années malheureusement vont devoir s'écouler, mais aucun temps leur est dédié pour pouvoir justement être en formation avec les différents types de handicap, pour pouvoir aussi savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui existe. C'est vrai que y a depuis des années, quoi, maintenant 2-3 ans, Cap Inclusion, qui est quand même une base de données pour l'ensemble des enseignants de l'éducation nationale, justement pour pouvoir trouver des grilles, pour pouvoir trouver de la méthodologie, pour pouvoir trouver tous ces petits outils, ces petites billes aussi. Sauf que on ne leur déploie pas. C'est inscrit dans un papier, mais voilà. On leur transmet pas forcément comment utiliser la grille, comment utiliser l'outil, comment on peut adapter cette adaptation. Et il y a réellement un manque de temps, un manque de formation aussi pour pouvoir y aller. C'est vrai que les enseignants spécialisés, j'ai cru entendre que ça allait disparaître. Les CAPASH, vraiment les enseignants spécialisés qui venaient sur les structures du médico-social et qui avaient vraiment ce volet du handicap, des adaptations, de comment faire des pédagogies différenciées. Aujourd'hui, voilà, il faut mettre le volet du handicap dans l'UFM pour tout le monde, mais en survolant. Donc, et puis c'est pareil, c'est à l'appréciation de l'enseignant, qui aura envie ou pas de faire ça. On est aussi confronté à ça, donc ce suivi, l'étayage, l'accompagnement des équipes, elle doit se faire au quotidien.
D'accord, je vais juste aller chercher mon fil de batterie, je suis à 10%, il faut que je remette le fil, j'ai oublié, j'arrive. Oups. En plus, je suis en train de tester un nouveau logiciel qui écrit pendant qu'on enregistre. Ce qui fait que ça évite de réécouter et puis il coupe à chaque fois les mots par des tranches en fait. Donc comme ça me permet après de tout simplement de
gagner du temps.
Ouais, c'est ça. Je regarde juste, voilà, c'est bon. Alors est-ce qu'il va le mettre à charge? Alors, autre question. Quels sont les compensations à votre avis que vous souhaiteriez être formé dans ce cadre? Et puis, je pense que quand on leur met quand on vous forme et tout ça, automatiquement, ça va vous faire résonance avec une situation et vous pouvez poser comme ça la question à l'instructeur pour lui demander, ben voilà, j'ai un type de cas sur cette situation-là, comment je pourrais, et même si lui n'a pas peut-être la réponse, il va peut-être rechercher, mais aussi vous apporter aussi cette créativité à cette réflexion avec un automatisme où quand vous cherchez l'information, vous allez la chercher très rapidement parce que vous aurez pris l'automatisme, quoi.
Ouais. Ce qui serait dans l'idéal, hein, ça serait d'avoir réellement, alors au niveau des acteurs de la MDPH, parce que c'est quand même les premiers à normalement à savoir tout ce qui est possible. Mais c'est vrai qu'on a, même dans l'instruction le montage des dossiers de demande à la MDPH, d'avoir comme ça soit un numéro ou une personne ressource pour les professionnels du médico-social en disant est-ce que voilà effectivement comme vous dites on a cette situation complexe et comme par exemple sur l'orientation de Jean-Roch par exemple c'est pouvoir moduler différents types comme du CAS avec un établissement adulte, voilà, de pouvoir réellement monter ça et faire en sorte que ça aboutisse surtout. Et c'est vrai que généralement on est seul, on se dit bon, on va demander, et sans penser forcément peut-être à une autre chose un autre maillage qui pourrait aussi fonctionner. Et on est dans l'attente de cette commission qui va soit accorder ou blabouler la chose. Mais c'est la perte de temps. Et c'est pas forcément le meilleur construct, c'est pas forcément la meilleure des choses. Ça serait important d'avoir effectivement des personnes qui nous conseillent, qui effectivement aussi pensent peut-être aussi à d'autres choses. Ça serait génial.
Et alors, pour finir, la dernière question. Qu'est-ce que vous évoque le thème de l'acceptabilité de la compensation humaine, technologique, matérielle et numérique? C'est long.
D'adaptation possible pour faire en sorte que voilà la personne en situation de handicap soit autonome dans sa vie entière.
Ouais. Et vous pensez que le numérique est ou technologique est indissociable de la partie humaine, ou est-ce qu'il faut les deux ensemble dans la compensation?
Il peut y avoir les deux. Mmh. Moi, à mon sens, si une situation nécessite effectivement un peu de temps humain effectivement une adaptation numérique, oui, il faut pouvoir compiler les deux, effectivement. Et c'est vrai que là, après, à voir, hein, parce qu'on a aussi Séraphin PH, la nomenclature de Séraphin PH qui va arriver aussi pour les établissements du médico-sociaux. Et c'est vrai que dans les besoins, il va y avoir encore d'autres systèmes. En tout cas, la volonté, c'est de pouvoir être dans une compensation dans sa globalité, que ce soit sur la scolarité, la vie quotidienne, le médical. Voilà, de pouvoir vraiment, comme il disait, c'est d'arriver, alors je pense que c'est aussi un petit peu en lien, à des prestations. C'est-à-dire, voilà, si on a besoin un petit peu dans la vie quotidienne, un petit peu dans le travail, un petit peu, voilà, et ben que tout ça soit vraiment pris en compte pour la personne, et non pas, dans ce centre-là ou dans cet établissement-là, on n'a pas ce type de métier, donc on ne pourra pas faire cet accompagnement. Et en tout cas, les années qui vont arriver, normalement, on doit tendre vers cette nomenclature de prestations ou d'être vraiment au plus près des besoins, donc s'il faut du médico-social, s'il faut du médical, voilà, qu'on tend vraiment sur une multiplicité, un maillage en fonction effectivement des besoins de la personne.
D'accord. Ben voilà, vous avez répondu à tout mon questionnaire, merci. Bon, en tout cas, c'est un vrai plaisir d'apprendre, et puis c'est très très enrichissant. Enfin, moi, le domaine du handicap, ça me passionne comme le numérique. Donc c'est, puis détourner le numérique pour l'inclusion, c'est ce que je trouve de ce qu'il y a de plus beau. Et puis quand on voit Dolovan, moi ça m'a marqué, quoi. Ça, autant ça m'a marqué les autres jeunes quand on leur a parlé du handicap et qu'ils en ont cet atelier de sensibilisation qu'ils se sont appropriés. J'ai trouvé ça bien, et puis que ça les a ressoudés en plus. Alors pour moi, c'était génial, quoi. Et puis à travers leur BD, il y a des histoires. On voit qu'il y a des choses où leur faire du numérique avec du coding pendant une pause, parce qu'en fin de compte, on leur a posé des questions sur le numérique, et puis ils ont pu... Et en fait, on a pu mettre en avant leur capacité que... Peut-être qu'on n'aurait pas vu dans un autre atelier. Et là, le fait de mettre, ça les a confortés dans leur potentiel.
Bien sûr, et c'est vrai que même après coup, c'est vrai qu'on, c'est là où on se dit, on reste cloisonné encore quand même dans ces choses-là. Parce que toutes ces choses, moi, c'était plus sur des structures telles que IEM, Institut d'éducation motrice, où voilà, il y avait besoin, mais parce qu'on est sur un autre type de handicap,
ouais.
Là c'est le volet communication, mais vraiment où il n'y a pas le langage, parce qu'il ne viendra jamais. C'est surtout ça, c'est parce que physiologiquement, malheureusement, pour certains handicaps, c'est irréversible. Et c'est vrai aussi, et nos jeunes, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, alors que ça existe depuis tellement de temps, et on voit bien que ça permet de lever des freins pour des jeunes et à continuer et à avancer et à se dire que c'est pas grave, il n'y a pas de honte, il n'y a rien, et y a des outils qui permettent de continuer tes apprentissages. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, le numérique, c'est aussi la porte pour pouvoir dire attention, arrêtons de se cantonner que pour des classifications malvoyants, comme vous dites, et puis la situation de handicap, elle est aussi, pour revenir sur un peu la première question, qu'elle soit notifiée ou pas ou reconnue, on peut être tous porteurs d'un handicap, Voilà, c'est aussi là dans
Je
le
l'ai fait
sujet de
sur...
notre échange. Ça peut être connu ou non, mais voilà, l'important c'est de pouvoir développer oui, des compensations, des petites choses pour faire en sorte que ça ne soit pas un frein dans la vie de tous les jours.
Bah dans ma note de synthèse que j'ai prépa que j'ai que je vais préparer après mon mémoire, je parle de est-ce que l'illectronisme et l'illettrisme peut être considéré comme un handicap? Parce qu'on est sujette à ça. Et en fait, le handicap, on peut l'avoir dans toute la vie, dans sur plein de petites choses, dès qu'on est dans une limitance quelque part. Professionnelle, sociale, voilà, enfin personnelle. Et donc, j'ai voulu amener cette réflexion-là parce que l'illettrisme, on le met à part, mais non, les adaptations sont les mêmes que les troubles cognitifs ou les malentendants ou les malvoyants. Et c'est là où je leur dis, ben, et la manière dont les professionnels travaillent sur l'illettrisme, je leur dis, mais vous pensez pas au numérique? Ils me disent, ben, en fait, on y pense, mais on n'a pas le temps. Je dis, oui, mais si on prenait un petit peu de temps, ben, on ferait un grand
Temps,
pas.
pas de formation, pas être formé.
Ouais.
Comme vous dites, le handicap de ne pas pouvoir utiliser l'outil dans sa globalité, c'est un frein.
C'est ça.
Si on ne connaît pas non plus tous les paramétrages, toutes ces subtilités, comme vous dites, on est aussi on peut être en situation de handicap, hein,
C'est ça.
de ne pas savoir bien utiliser l'outil dans son maximum, tout à fait.
Et je pense que si on leur dit ça aux gens, je pense que ça peut en même temps, bah, dédramatiser ce mot handicap qui est juste une catégorisation, hein. Comme moi je disais aux jeunes, c'est un droit citoyen. On reconnaît un homme, une femme, il faut des catégories, on met une catégorie, on a voulu mettre un mot un peu plus joli. Bon, c'est vrai que quand Jean-Roch leur a expliqué l'histoire du handicap, bah, ça les a déculpabilisés. C'était moins lourd à porter. Et quand on leur dit que c'est juste un droit administratif, parce que c'est rien d'autre que ça, qu'ils ont une pathologie avant tout. Le reste, c'est... Voilà, parce que la pathologie est variable, quoi. Alors que l'étiquette, elle reste quand même.
Aussi, hein, même pour les sortants plus tard, ou si on est sur la RQDH, hein, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'acceptation et de justement en fin de parcours des familles et des jeunes à ce qu'on demande la RQDH. Voilà, avec, mais parce que je pense qu'il y a aussi toujours bah, bon, il y a quand même un cheminement qui a été fait sur l'acceptation du handicap ou des choses. Mais voilà, c'est aussi parce que on peut l'utiliser ou pas. Voilà, avec cette carte où bah, ça remet en quête quand même, hein, quand la RQTH, de dire on peut le dire ou pas. C'est paradoxal en même temps, parce
C'est ça.
que bah, si on est reconnu personne en situation de handicap, pourquoi le taire aux autres alors qu'on pourrait en avoir besoin?
C'est
Donc
ça.
voilà. Enlever cette honte, ce sentiment de honte ou de préjugés, hein, c'est vrai, faudrait voir au niveau des personnes qui le vivent, pourquoi elles l'utilisent ou elles l'utilisent pas, elles
Bah,
l'utilisent
quand
ou
elle
pas, c'est
l'utilise,
pas.
alors, en fait, des fois il y en a certaines, elles se disent, bah, mon handicap n'impute pas sur ma vie professionnelle. Donc je n'ai pas besoin de cette reconnaissance. Elle l'est dans ma vie sociale. Si éventuellement ça évolue, ok. Et donc ils se disent, bah, je ne vais pas donner la possibilité à l'entreprise de me déclarer, parce que eux, ça va leur faire des bénéfices, enfin, de réduction. Donc je ne vois pas l'utilité, je préfère qu'ils recrutent une personne handicapée où ils ont besoin de faire des adaptations, parce que c'est dans ce cadre-là que normalement on peut enfin, la prendre en charge. Ils pensent, voilà, dans cette partie. Après, il y en a certains qui vont dire, oui, mais non, moi je ne veux pas parce que je vais être mal vu. Je vais être la personne handicapée, je ne vais pas évoluer, ça va être compliqué. Et c'est vrai qu'on a vraiment plusieurs types, et il y en a d'autres qui disent, bah non, moi je veux. Mais quand on regarde les offres d'emploi, on dit, nous prenons en per des pers notre entreprise est ouverte aux personnes en situation de handicap. Rien que déjà, cette phrase-là, et que vous êtes prioritaire, ça veut dire que vous êtes en train d'amener aux autres personnes qui ne sont pas en situation de handicap de dire, ok, lui, il va être pris parce qu'il a une situation de handicap, donc on lui donne ce poste. au lieu de dire qu'on est une structure handi-accueillante, voilà, on est ouvert, on est une structure handi-accueillante et que nous avons un service qui pourra, un service, une chargée de mission handicap, qu'on a un médecin du travail pour nécessité, si vous avez quoi que ce soit. Je pense que c'est des phrases comme ça qu'il faudrait mettre dans, même dans les offres d'emploi. Je pense que tout ça, ça ferait une gymnastique pour moins de préjugés, moins de freins. Et en même temps, pour que la personne en situation de handicap, bah, elle se... Voilà.
Ouais.
Je pense que c'est ça, il faut dire ça. Parce que de toute façon, tout au tard, on peut rentrer dans le handicap. De toute façon, on devient... Quand on vieillit, on peut avoir un handicap vieillissant. Donc, Alzheimer, tout ça, Parkinson, machin. Donc, voilà. Ok. Bah, j'ai madame... Maintenant, j'ai madame Mémé... Ah, madame Méret. À midi, pour les ateliers, je suis en train... Oui, pour voir ce qu'on pourrait mettre en place. Est-ce que vous avez des idées quand vous voyez... vous avez pu discuter avec eux dans ce cadre-là, de combien, parce que je ne sais pas combien il y a de groupes, de classes et tout ça.
Là, oui, ça sera plus Madame
Méret.
Voilà.
On va y arriver. J'ai réfléchi pendant les vacances où vraiment sur cette stratégie des compensations, puisqu'on est vraiment, c'est un sujet qui est important, mais en même temps faut pas leur imposer et faut qu'ils arrivent à se l'imprégner puis créer une créativité. Et je me suis dit que le fait de faire un atelier de sensibilisation du handicap et après passer sur un atelier BD, ça nous permet aussi en même temps de vérifier les problématiques qu'ils pourraient rencontrer sans pour autant être affichés, puisque chacun aura une problématique numérique automatiquement, donc ils auront tous un handicap à ce moment-là, mais il y a une entraide de partage quand même qui est bien, puis mettre la parole sur quelque chose qu'ils peuvent exprimer. Et moi, je trouvais que ça permet d'après de se dire, bon, bah, peut-être qu'on peut faire des séances de coaching à ce jeune-là, parce que lui, il a besoin de ce type d'adaptation-là. Et comme bah, il l'a mieux accepté, on se dit, bah, on va le faire à travers des ateliers, un peu comme une orthophoniste le ferait, et ça passerait mieux, je pense.
Parce que ça fait partie de l'atelier, tout le monde a vu, voilà, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de honte, et même pour les enseignants, je pense que c'est après, c'est le tremplin pour pouvoir rebondir, et puis justement, là c'est vrai avec les tablettes numériques, je pense que c'est le bon timing pour après redévelopper, je pense, dans les paramétrages de toutes ces tablettes qui sont là sur les TEP et pour les jeunes, vraiment d'être...
Et est-ce qu'il faut former aussi les professeurs aux compensations et tout ça pour qu'ils appréhendent un peu et puis que quand le jeune met une adaptation, qu'il sache faire la différence entre quand c'est du personnel, parce qu'il faut faire quand même aussi attention et ça, faut être vigilant, on le sait, et en même temps sur le professionnel, parce qu'on pourrait leur expliquer de, au lieu de choisir un livre à lire, voilà, qu'ils peuvent aller sur Audible ou je ne sais pas, enfin il y a des choses qui existent, parce que quand je sais que dans la classe de mon fils, on demandait d'acheter un livre. Et j'ai dit à mon fils, mais je ne vais pas t'acheter tout le temps des livres. Et quand je vois que tu as des difficultés scolaires sur les maths, et que là, on te demande de faire un truc où ça va être pas beaucoup de choses à faire, je lui dis, je te prends le livre en audible et je te le mets en lecteur vocal. En 2 heures, il m'avait lu le livre. Et donc, et comme je lui dis, on a une accessibilité généralisée. C'est ce que je dis à mon fils. Mon fils, il en a marre le dernier. Il m'a dit, tu m'énerves avec le handicap. Mais en même temps, je lui ai dit, je t'ai apporté du bien-être et tu as pu compenser sur un travail comme ça. Et je pense qu'aussi aux professeurs, c'est de leur dire, voilà, il y a des livres de lecture qui peuvent être audibles. Si vous proposez des livres d'achat, enfin ça dépend, après je ne sais pas s'ils le font, mais de se dire, ben, on va peut-être prendre des livres audibles parce que ça fatigue vivement moins le jeune.
C'est leur donner, je pense que sans entrer dans des complexités d'utilisation de l'outil, mais c'est effectivement, c'est de les outiller pour que ça existe. Il y a possibilité, effectivement, si vous avez des jeunes qui ont des difficultés à passer par l'écrit, voilà, il y a tel type, on fait ça ensemble, voilà, c'est des choses qui marchent. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est pour eux, c'est il faut, parce que je pense que, de toute façon, ça peut apporter que du plus, au contraire, pour penser leur séance, pour penser leur séquence. Et puis s'il y a les petits ateliers, c'est effectivement en fonction des jeunes, c'est de faire le retour à l'enseignant ou alors après, parce que je pense que ça sera pris autrement, que ça soit Madame Auclair qui l'amène aux enseignants, mais par le professionnel qui a utilisé en disant voilà, tel jeune, je l'ai eu, je pense que si vous êtes en difficulté, ou voilà, il y a ça qui peut, parce que ça il accroche, ça il sait faire, ça il voilà, il y a quelque chose qui a pris. Et voilà, pour continuer à faire en sorte, comme vous dites, que c'était, je pense, Monsieur Canoc, qui à un moment donné était en peine, qu'on n'arrive pas à des fins d'année où les gens s'épuisent parce qu'il n'y a pas ce petit truc.
Oui, c'est ça.
En se disant, voilà, mince, si je l'aurais eu, j'aurais mis tel jeune sur ce travail-là avec cet outil-là, on l'aurait fait ensemble et tout est bon à prendre. Hein.
Ouais, parce que je pense que dans le groupe-là, il y avait tellement une particularité de chacun, mais ils étaient tellement numériques et tellement connectés. Enfin, je les regardais et je leur disais, mais vous êtes énormément connectés, quoi, les jeunes. Et en fait, y en avait un, il va être plus sur cette partie-là, l'autre un peu plus cette partie-là. Et après, il y avait un autre jeune qui est arrivé, qui n'était pas du tout du groupe. Et quand il a vu que Jean-Roch avait fait un stage chez moi, il m'a dit, ah, mais t'as fait un super stage, t'as trop de chance. Et puis après, et puis il voyait que les autres faisaient un atelier, il me dit, mais c'est super cet atelier, mais pourquoi j'ai pas ça? Et après, ses copains qui étaient en train de lui expliquer en disant, bah ouais, bah en fait, on a été sur Canva, on a fait ci, et en fait, ils arrivaient à exprimer, donc en même temps, bah ils donnaient des informations aux jeunes pour peut-être que l'autre jeune allait pouvoir peut-être le faire tout seul ou le conseiller par la suite de partage d'enchaînement, quoi. Et ça peut pareil avec le professeur, le jeune peut arriver à amener au professeur, et là on devient dans une classe un peu inversée, où on apporte quelque chose.
La transmission, complètement, un partage des choses, complètement.
Ok. Bon bah c'est super.
Voilà.
Bon bah je vous dis bon courage.
N'hésitez pas,
oui. Bah je vous enverrai peut-être un questionnaire si vous pourriez le diffuser à vos collègues. C'est voilà pour parce qu'en fait on va Level Up veut vraiment faire des formations beaucoup pour les structures handi accueillantes et on est en train de voir avec un grand monsieur qui a créé la téléassistance qui nous soutient pour être notre parrain pour que nos tarifs restent des tarifs préférentiels pour les structures handi accueillantes. On veut absolument ça et donc on va demander à des mutualités comme la Maïf, Matmut et tout ça, des RH, qu'elles prennent des prestations chez nous. Et quand elles prennent des prestations chez nous, en fait, elles font gagner aux structures handi accueillantes directement des réductions. Comme ça, on a des tarifs préférentiels. Et si elles veulent payer une formation pour une structure en particulier qu'on aurait, bah, ce serait offrir ça à un jeune. Et donc, bah, nous, elles gagnent un avantage bon, administratif et tout, hein, bien sûr. Donc voilà, on leur montre ça. Mais nous, ça nous permet de dire, bah, ok, on est payé, mais en même temps, ils ont un tarif préférentiel ou on peut leur offrir gracieusement parce que la Matmut s'est dit, bah, voilà, bah, nous, à l'ITEP, on a envie d'offrir 2 ateliers. Et ça pourrait, donc on est en train de négocier tout ça, de travailler sur cette partie-là. Donc on est en train de terminer un questionnaire pour l'utilité des formations sur les bénéficiaires, sur les professeurs, sur les éducateurs, d'experts sur le coaching, le management, la RH et le digital. Parce que le digital est inclus tout le temps automatiquement dedans avec l'inclusion. Mais la RH, le management et tout ça, nous on trouve que c'est hyper important pour. Et puis la gestion du stress aussi. Voilà. Et la FSL aussi, on a un coach spécial en FSL.
Ah oui.
Voilà. Donc,
super.
Voilà.
Et
vos projets. Ouais, on essaye. Bah, merci en tout cas, je vous souhaite une bonne journée à vous.
Oui, bonne journée à vous.
Bon courage, merci, au revoir. Au revoir. Ok.